Le concept de progrès agit comme un mécanisme de protection destiné à nous isoler des terreurs de l'avenir. Extrait de L'Édit de Muad'Dib par la princesse Irulane. Aux jeux familiaux, pour son 17e anniversaire, Feyd-Rofa Harkonnen tua son 100e esclave gladiateur. Les observateurs de la cour impériale, le comte et Dame Fenring, se trouvaient alors sur Gedibrime, le monde des Harkonnen, et ils avaient pris place avec la famille de Feyd-Rofa dans la loge dorée, au-dessus de l'arène triangulaire. Pour l'anniversaire du Na-Baron, et afin de rappeler à tous les Harkonnen et à leurs sujets que Feyd-Rofa était l'héritier du nom, ce jour avait été décidé vacant. Le vieux baron avait décrété que d'un méridien à l'autre, le labeur cesserait, et dans la cité familiale d'Arco, on avait fait des efforts pour donner l'illusion de la gaieté. Des drapeaux flottaient sur les édifices, et au long de la grand-rue, les murs avaient été repeints. Mais entre les demeures, le comte Fenring et sa dame remarquaient l'état de détritus, les murs brunâtres qui se reflétaient dans les mares d'eau sale, la démarche furtive des gens. Entre les murs bleus de la retraite du baron, régnaient la perfection et la crainte, mais le comte et sa dame devinèrent le prix que cela supposait. Il y avait des gardes de toutes parts et les armes avaient cet éclat particulier qui disait à l'œil averti qu'elles étaient régulièrement utilisées. Dans la demeure, les postes de contrôle se succédaient. La démarche des serviteurs révélait leur formation militaire autant que le port de leurs épaules et leur regard vigilant qui, sans cesse, fouillait.
« La pression monte », murmura le comte à sa dame dans leur langage secret.
Le baron commence seulement à comprendre vraiment le prix qu'il doit payer pour s'être débarrassé du duc Leto.
« Il faudra que je vous raconte une fois la légende du phénix », dit-elle.
Il se trouvait dans le hall de réception de la demeure, attendant de se rendre aux jeux familiaux. Le hall n'était pas très grand. Il faisait peut-être 40 mètres de long sur 20 de large. Mais les faux piliers sur les côtés avaient un angle abrupt qui, s'ajoutant à l'arche subtile du plafond, donnait une illusion d'espace.
« Ah, voici venir le baron !» dit le comte.
Le baron s'avançait au long du hall avec cette allure flottante qui s'expliquait par les suspenseurs qu'il devait guider tout en marchant. Ses bajoues tressautaient, et sous sa robe orange, les suspenseurs allaient et venaient en cadence. Des bagues scintillaient à ses doigts et les opaflammes brasillaient sur sa robe. Auprès de lui s'avançait Feyd-Rofa. Ses cheveux sombres étaient peignés en bouclettes serrées. Cette coiffure gaie offrait un contraste incongru avec ses yeux tristes. Il portait une tunique noire et ajustée et des pantalons étroits légèrement évasés dans le bas. Ses petits pieds étaient chaussés de pantoufles. Dame Fenring remarqua le port du jeune homme et la fermeté des muscles qui jouaient sous sa tunique, et elle pensa « celui-ci ne se laissera pas grossir ». Le baron s'arrêta devant ses visiteurs, saisit le bras de Feyd-Rofa en un geste possessif, et dit
« Mon neveu, le Na-Baron Feyd-Rofa Harkonnen ».
Et tournant son visage de gros bébé vers Feyd-Rofa, il ajouta
« Le comte et Dame Fenring dont je t'ai parlé ».
Feyd-Rofa inclina la tête comme le voulait l'usage. Il regarda Dame Fenring. Sa silhouette parfaite était rehaussée par une simple robe de toile sans aucun ornement. Ses cheveux dorés et légers étaient comme une pluie figée. Ses yeux gris verts répondirent au regard du jeune homme. Il y avait en elle ce calme et cette sûreté Bene Gesserit qui troublaient vaguement Feyd-Rofa.
Fit le comte en posant les yeux sur Feyd-Rofa.
C'est ce jeune homme-là. Ma chère,
il regarda le baron.
Mon cher baron, vous disiez que vous aviez parlé de nous à ce jeune homme. Que lui avez-vous donc dit?
J'ai fait part à mon neveu de la grande estime en laquelle vous tenez l'empereur, comte Fenring, dit le baron.
Et il pensa, repère-le bien, Feyd. C'est un tueur avec des façons de lapin. L'espèce la plus dangereuse.
« Bien sûr, » dit le comte, et il sourit à sa dame. L'attitude et les paroles de cet homme semblaient presque insultantes à Feydrofa. Elle restait juste en deçà de la limite de l'affront. Le jeune homme concentra toute son attention sur le comte. Le petit homme avait une allure fragile. Ses yeux sombres étaient trop grands dans son visage de fouine. Les cheveux gris apparaissaient à ses tempes. Quant à ses gestes, il bougeait la main, tournait la tête d'une façon et parlait d'une autre. Il était difficile de le suivre. « Vous êtes rarement aussi précis, » dit le comte comme s'il s'adressait à l'épaule du baron. « Je vous félicite pour la perfection de votre neveu. Il profite de la lumière des aînés, peut-on dire. »
« Vous êtes trop bon, » dit le baron en s'inclinant.
Mais Feydrofa n'avait pas lu la moindre courtoisie dans le regard de son oncle. « Lorsque vous êtes ironique, cela laisse à croire que vous nourrissez des pensées plus profondes, » dit le comte.
« Il recommence, » songea Feydrofa.
Il s'exprime de façon insultante sans nous offrir la satisfaction de pouvoir le défier. En écoutant le comte, il lui semblait qu'on lui enfonçait la tête dans de la bouillie.
Il reporta son attention sur Dame Fenring.
« Je crois que nous retenons par trop ce jeune homme, » dit-elle. « Je sais qu'il doit paraître dans l'arène aujourd'hui. »
« Par toutes les houris du harem impérial, » se dit Feydrofa. « Mais elle est adorable. »«
Aujourd'hui, madame, » dit-il, « je tuerai pour vous. » Avec votre permission, je le proclamerai dans l'arène. Elle le regarda avec sérénité, mais sa voix était comme la lanière d'un fouet quand elle répondit « Vous n'avez pas ma permission. »
« Fade !» s'exclama le baron. Et il songea « Jeune démon, est-ce qu'il veut que le comte le défie ?»
Mais le comte se contenta de sourire.
Tu dois te préparer pour l'arène maintenant, » reprit le baron. Il faut te reposer et ne pas prendre de risques. »
Feydrofa s'inclina. Le ressentiment assombrissait ses traits. « Je suis certain qu'il en sera selon vos désirs, oncle, » dit-il. Il s'inclina devant le comte. « Monsieur ?» puis devant sa dame. « Madame ?» Et il s'éloigna, accordant à peine un regard aux membres des familles des maisons mineures rassemblés près de la double porte.
« Il est si jeune !» soupira le baron.
Fit le comte. Et sa dame pensa, est-ce lui que désignait la révérende mère? Est-ce donc vraiment cette lignée qu'il nous faut préserver?
Il nous reste encore plus d'une heure avant de nous rendre à l'arène, dit le baron. Peut-être pourrions-nous avoir ce petit entretien dès maintenant, comte Fenring.
Il pencha son énorme tête sur la droite.
Il nous faut discuter encore de bien des points.
Il songeait, et voyons donc comment s'y prendra le valet de l'empereur pour me faire part de la teneur d'un message sans pousser la grossièreté jusqu'à me la répéter à haute voix. Le comte se tourna vers sa dame. « Ma chère, nous excuserez-vous ? Chaque jour, et parfois chaque heure, apporte son changement, » dit-elle. Et avec un gracieux sourire à l'adresse du baron, elle se détourna et s'éloigna vers l'extrémité du hall, dans le bruissement de ses longues jupes. Elle se tenait très droite et sa démarche était royale. Le baron remarqua que, à son approche, les conversations se tarissaient dans le groupe des maisons mineures et que tous les yeux la suivaient. « Les Bene Gesserit, » se dit-il. « L'univers ferait mieux de s'en débarrasser. »
« Entre ces deux piliers là-bas à gauche, il y a un cône de silence, » dit le baron. « Nous pourrons discuter sans craindre d'être entendus. »
Il précéda le comte de sa démarche ballottante et pénétra dans le champ isolant. Les bruits du hall devinrent étouffés, lointains. Le comte vint se placer à côté de lui et ils firent face au mur afin que nul ne pût lire sur leurs lèvres. « La façon dont vous avez chassé les Sardaukars d'Arrakis ne nous satisfait pas, » dit le comte.
« Tout net, » songea le baron. Les Sardaukars ne pouvaient rester plus longtemps sans que nous courions le risque que d'autres découvrent de quelle façon l'empereur m'avait apporté son aide, » dit le baron.
« Mais votre neveu, Rabban, ne semble pas se diriger assez vite vers une solution du problème Fremen. »
Que souhaite donc l'empereur ? Demanda le baron. Il ne doit guère rester plus d'une poignée de Fremen sur Arrakis. Le désert du sud est inhabitable et nos patrouilles fouillent sans cesse ceux du nord.
Qui a dit que le désert du sud était inhabitable ?
Votre propre planétologiste, mon cher comte.
Mais le docteur Kynes est mort.
Oui, c'est vrai. C'est bien regrettable.
Les territoires du sud ont été survolés, dit le comte. Il a été prouvé que la vie végétale y existe.
La guilde a-t-elle reçu l'autorisation d'observer Arrakis depuis l'espace ?
Vous savez bien que non, baron. L'empereur ne peut légalement faire surveiller Arrakis.
Et moi non plus, dit le baron. Qui a donc effectué cette observation ?
Un contrebandier.
Quelqu'un vous aura menti, comte, dit le baron. Les contrebandiers, pas plus que les hommes de Rabban, ne peuvent explorer les régions du sud. Il y a des tempêtes, des orages de sable. Les repères de navigation sont détruits plus vite qu'ils ne sont installés.
Nous discuterons une autre fois des différents types de tempêtes.
Ah, songea le baron. Auriez-vous relevé quelque erreur dans ce que j'ai dit ? Demanda-t-il.
Si vous imaginez des erreurs, je ne puis me défendre, dit le comte.
Il essaie délibérément d'éveiller ma colère, pensa le baron. Afin de se calmer, il prit de profondes inspirations. Il sentit sa propre sueur et les harnais de ses suspenseurs sous sa robe le gênaient, le grattaient.
L'empereur ne peut prendre ombrage de la mort de la concubine et du garçon, dit-il. Ils se sont enfuis dans le désert. Il y avait une tempête.
Oui, il y a eu bien des accidents opportuns, dit le comte.
Je n'aime pas votre ton.
La colère est une chose, la violence en est une autre, dit le comte. Laissez-moi vous donner un avertissement. Si un accident malheureux m'arrivait ici, toutes les grandes maisons apprendraient ce que vous avez fait sur Arrakis. Il y a bien longtemps qu'elles soupçonnent les méthodes dont vous usez.
La seule dont je puisse me souvenir, dit le baron, consistait à transporter sur Arrakis des légions de Sardaukar.
Croyez-vous vraiment que vous pourriez menacer l'empereur avec cela ?
J'y songerai.
Le comte eut un sourire.
Nous trouverions toujours des commandants de Sardaukar prêts à avouer qu'ils ont agi sans ordre parce qu'ils désiraient affronter votre racaille Fremen.
Nombreux seraient ceux qui pourraient douter d'un tel aveu, dit le baron.
Mais cette menace l'avait ébranlé. Les Sardaukars sont-ils vraiment aussi disciplinés ? Se demandait-il.
L'empereur, dit le comte, aimerait prendre connaissance de vos livres.
Quand il le voudra.
Vous n'avez aucune objection.
Aucune. Mon administration dans la chôme résisterait à l'examen le plus poussé.
Il pensa, laissons-le porter une fausse accusation à mon encontre. Qu'il la révèle au grand jour. Pour ma part, je pourrais proclamer à tous que je suis victime d'une erreur. Alors qu'ils viennent donc ensuite m'accuser une seconde fois, même à juste titre. Jamais les grandes maisons ne le croiront après sa fausse accusation.
Il ne fait aucun doute que vos livres résistent à un examen attentif, murmura le comte.
Pourquoi l'empereur tient-il tant à exterminer les Fremen ? Demanda le baron.
Vous désirez changer de sujet, n'est-ce pas ?
Le comte haussa les épaules.
Les Sardaukars le désirent, non l'empereur. Ils aiment tuer et détestent laisser une tâche inachevée.
Essaie-t-il de m'effrayer en me rappelant qu'il a de son côté ses tueurs assoiffés de sang ? Se demanda le baron.
Le meurtre a toujours fait partie des affaires dans une certaine mesure, dit-il. Mais il faut bien fixer une limite quelque part. Quelqu'un doit s'occuper de l'épice.
Le comte eut un rire bref, sec.
Croyez-vous pouvoir venir à bout des Fremen ?
Ils n'ont jamais été assez nombreux pour cela. Mais le massacre a mis le reste de la population mal à l'aise. C'est au point, mon cher Fenring, que j'en viens à considérer une autre solution au problème Arrakin. Et je dois avouer que c'est à l'empereur que je dois cette inspiration qui m'est venue.
Ah !
Voyez-vous, comte, je dispose de la planète prison de l'empereur, Salusa Secundus, pour m'inspirer.
Le comte fixa sur lui des yeux brillants.
Quel rapport peut-il y avoir entre Salusa Secundus et Arrakis ?
Le baron décela l'inquiétude dans le regard de son interlocuteur et dit
« Aucun, encore. »
« Encore ? » ?»«
Vous admettrez avec moi que le fait d'utiliser Arrakis comme planète prison permettrait de développer le travail de façon substantielle.
Vous vous attendez à une augmentation du nombre des prisonniers ?
Il y avait de l'agitation. Il m'a fallu prendre des mesures plutôt sévères, Fenring. Après tout, vous connaissez le prix que j'ai dû payer à cette maudite guilde pour le transport de nos forces communes. Il faut bien que je prenne cette somme quelque part.
Je vous suggère de ne pas utiliser Arrakis comme planète prison sans la permission de l'empereur, baron.
Bien sûr que non,
dit le baron, et il se demanda pourquoi il y avait eu ce frisson soudain dans la voix de Fenring. Autre question, reprit le comte. Nous avons appris que le mentat du duc Leto, Tufir Hawat, n'était pas mort, mais qu'il vous servait.
Je n'ai pu me résoudre à le supprimer.
Lorsque vous avez dit à notre commandant des Sardaukar qu'il était mort, vous mentiez donc?
Pour la bonne cause, mon cher comte. Je n'étais pas d'humeur à me disputer avec cet homme.
Hawat était-il réellement le traître?
Oh Dieu, non! C'était le faux docteur.
Le baron porta la main à son cou, effaça les traînées de transpiration.
Il faut me comprendre, Fenring. Je n'avais plus de mentat. Vous le savez bien, jamais cela ne m'était arrivé. J'étais tout à fait désemparé.
Comment avez-vous pu amener Hawat à changer d'allégeance?
Son duc était mort.
Le baron s'efforça de sourire.
Il n'y avait rien à craindre de Hawat, mon cher comte. Sa chair de mentat a été imprégnée d'un poison lent. L'antidote lui est administré dans sa nourriture. Sans lui, il mourrait en quelques jours.
Cessez de le lui administrer, dit le comte.
Mais il m'est utile.
Il sait trop de choses qu'aucun homme vivant ne doit savoir.
Vous m'avez dit que l'empereur ne craignait pas les révélations.
Ne jouez pas à ce jeu avec moi, baron.
Lorsqu'un tel ordre me sera présenté sous le sceau impérial, j'obéirai, dit le baron. Mais je refuse de me soumettre à votre caprice.
Vous prenez cela pour un caprice?
Qu'est-ce que cela peut être d'autre? L'empereur, lui aussi, a des obligations envers moi, Fenring. Je l'ai débarrassé de cet encombrant duc Leto.
Avec l'aide de quelques Sardaukar.
Ou l'empereur aurait-il trouvé une maison pour lui fournir les uniformes nécessaires au déguisement de ses hommes afin que son rôle demeure secret?
Il s'est posé la même question, baron, mais d'une façon légèrement différente. Le regard du baron se riva sur son interlocuteur. Il remarqua la raideur des muscles, le contrôle vigilant de l'homme.
L'empereur ne croit pas pouvoir m'attaquer dans le secret absolu, non?
Il espère que ce ne sera pas nécessaire.
L'empereur ne peut penser que je le menace,
s'exclama le baron, en se laissant aller à exprimer la colère et l'amertume dans sa voix, tout en songeant qu'il me prenne donc en défaut sur ce point. Je pourrais monter sur le trône sans cesser un seul instant de protester de mon innocence. La voix du comte se fit sèche et distante. L'empereur croit ce que lui disent ses sens.
Oserait-il m'accuser de trahison devant le conseil du Landsrat au complet?
Le baron retint son souffle, plein d'espoir. L'empereur n'a pas à oser. Le baron se détourna dans le flottement de ses suspenseurs pour dissimuler son expression.
Cela pourrait être, pensa-t-il. Empereur, qu'il m'accuse donc.
Ensuite, il suffira de la coercition, de la corruption. Les grandes maisons se rallieront. Elles se rangeront sous ma bannière comme un troupeau de paysans cherchant un abri. Ce qu'elles redoutent par-dessus tout, ce sont les Sardaukar s'attaquant à elles l'une après l'autre. L'empereur espère sincèrement n'avoir jamais à vous accuser de trahison, dit le comte. Le baron s'efforça d'effacer toute trace d'ironie de sa voix pour n'exprimer que la tristesse.
J'ai été un loyal sujet. Ces paroles me blessent plus que je ne puis le dire.
Fit le comte. Le baron lui tourna le dos, hochant la tête.
Il est temps de nous rendre à la reine, dit-il.
Mais certainement. Ils quittèrent le cône de silence et, côte à côte, s'avancèrent vers les gens des familles mineures à l'autre bout du hall. Quelque part, une cloche tinta lentement, annonçant qu'il ne restait plus que 20 minutes avant les jeux.
Les maisons mineures attendent que vous les guidiez, dit le comte en inclinant la tête.
Double sens, pensa le baron.
Il regarda les nouveaux trophées qui décoraient l'entrée du hall. La tête de taureau et le portrait à l'huile du vieux duc Atréide, le père de Leto. Cette vision l'emplit d'un bizarre sentiment d'appréhension, et il se demanda ce qu'avait pu éprouver le duc Leto en contemplant ces mêmes trophées dans les halls de Caladan, puis dans ceux d'Arrakis. La tête du père et celle du taureau qu'il avait tué.
L'humanité n'a qu'une science, dit le comte, tandis qu'il quittait le hall,
précédant le groupe de leurs suivants pour accéder à la salle d'attente, espace étroit dominé par d'étroites fenêtres et dont le sol était recouvert de tuiles noires et blanches.
« Et quelle est-elle ? » demanda le baron.
« C'est la science du mécontentement. »
Derrière eux, les gens des maisons mineures aux faces dociles de moutons rirent comme il convenait, mais lorsque les pages déclenchèrent les moteurs d'ouverture des portes extérieures, cela fit comme une fausse note. Au dehors, les véhicules attendaient, leurs fanions claquant à la brise. Le baron éleva la voix pour dominer le bruit.
« J'espère que les performances de mon neveu ne vous décevront point, comte Fenring. »
« J'attends beaucoup de cette circonstance, » dit le comte. « Dans un procès-verbal, il faut toujours tenir compte du rôle des antécédents. »
En trébuchant sur la première marche, le baron réussit à dissimuler sa surprise. Procès-verbal. Un rapport de crime contre l'impérium. Mais le comte, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie, tapota le bras du baron en riant. Tout au long du chemin, cependant, bien enfoncé dans les coussins du véhicule blindé, le baron ne cessa pas de lancer des coups d'œil furtifs au comte assis à côté de lui. Il se demandait pourquoi ce valet de l'empereur avait jugé opportun de se livrer à une telle plaisanterie devant les maisons mineures. Il était bien évident que Fenring faisait rarement quelque chose d'inutile, de même qu'il n'employait jamais deux mots quand un seul suffisait, ou ne se contentait d'un seul sens pour une seule phrase. Il ne découvrit la réponse que lorsqu'ils eurent pris place dans la loge dorée au-dessus du triangle de la reine, entre les gradins grouillants de monde et le frémissement des fanions.
« Mon cher baron, » dit le comte en se penchant pour lui parler à l'oreille, « vous savez, bien entendu, que l'empereur n'a pas encore officiellement sanctionné le choix de votre héritier. »
Le baron eut la sensation de se trouver soudain dans un cône de silence créé par le choc qu'il avait éprouvé. Il regarda Fenring et vit à peine sa dame surgir d'entre les gardes pour prendre sa place dans la loge.
« C'est en vérité la raison de ma présence, » reprit le comte. « L'empereur désire savoir si vous avez fait le choix d'un successeur valable. Et il n'y a rien de tel que la reine pour révéler la vérité sous le masque, n'est-ce pas ?»«
L'empereur m'avait promis le libre choix de mon héritier, » gronda le baron.
« Nous verrons, » dit Fenring, et il se détourna pour accueillir sa dame.
Elle s'assit, adressa un sourire au baron, puis son attention se porta sur le sable de la reine où Feidrofa venait d'apparaître. En collant et gilet, gants noirs et longs couteaux à la main droite, gants blancs et lame courte à la main gauche.
Le blanc pour le poison, le noir pour la pureté, dit Dame Fenring. Curieux usage, n'est-ce pas, mon amour?
Fit le comte. Des acclamations s'élevèrent des gradins familiaux, et Feidrofa s'arrêta pour y répondre, levant les yeux vers les visages mêlés de ses cousins et demi-frères, concubines et orfraines, autant de bouches roses qui vociféraient dans un frisson multicolore de drapeaux et d'étoffes. Il se dit alors que ces visages reflèteraient la même avidité en contemplant son sang répandu ou celui de l'esclave gladiateur. Bien sûr, il n'y avait pas de doute quant à l'issue de ce combat. Ce n'était là que l'apparence du danger sans sa substance. Pourtant, Feidrofa leva son couteau dans le soleil et salua les trois angles de la reine à la façon ancienne. La lame courte dans son gant blanc, blanc, le signe du poison, regagna la première son étui. Puis ce fut la longue lame dans sa main gantée de noir. La lame pure, maintenant impure. L'arme secrète qui ferait de ce jour une victoire personnelle. Il y avait du poison sur la lame noire.